Eh bien, bonjour et tout de suite, toute l'équipe de Radio Éphémère, je devrais dire toute la tribu de Radio Éphémère.
Oui, la tribu.
La tribu de Radio Éphémère adresse ses remerciements, évidemment, aux chercheurs Solveig Serre et Luc Robben pour avoir impulsé quand même ce rendez-vous qui nous a amené à une mise en perspective de nos activités, à sortir notre fond d'affiche, à sortir un petit peu tout notre matériel depuis 35 ans. Ça tombe dans l'actualité du fait que ça fait 35 ans qu'on existe et qu'on a évidemment un lien avec ce mouvement punk. Pourquoi ? Ben, parce que ce mouvement a été fondateur de notre histoire. Derrière nous, voilà, il va y avoir un diaporama qui, en aléatoire, va raconter les 25-35 ans de la radio. Certains dans la salle se reconnaîtront et d'autres découvriront peut-être tout ce qu'on a fait. Un mouvement fondateur dans notre histoire, et c'est un état d'esprit qui était lié à cette mouvance et qui a positionné Radio Éphémère comme une entité singulière dans le panorama des médias existants. Alors, petit rappel historique sur le contexte politique qui a permis l'émergence des radios libres. D'abord, en 81, il existait déjà des radios dites pirates. À Toulouse, c'était Radio Barbe Rouge. Il y avait ce potentiel-là de rebelles, de radios pirates. Et puis, légalement, la France était dans un flou assez juridique en ce qui concernait les créations de radios.
Raymond Barre a vidé à l'époque, en 77 oui. D'ailleurs, je n'autolérerai pas l'arrivée des radios indépendantes. C'est un ferment d'anarchie quand même. Raymond Barre qui était Premier ministre.
Et le ferment d'anarchie, finalement, ça correspondait pas mal à Toulouse déjà et encore. Et donc le monopole du service public était toujours en vigueur sur le territoire national. Les fréquences étaient attribuées aux militaires, ce genre-là. Toutefois, qu'est-ce qui a fait basculer les choses ? C'est l'élection de François Mitterrand. Le gouvernement avait promis que les radios pirates soient libérées et on attendait donc le vote d'une loi. Ça a été chose faite le 9 novembre 81. La loi a été promulguée, elle libéralisait les ondes et dans cette dynamique, Radio Éphémère s'est attribué une fréquence, le 97.7. Et tout est parti de puisque le punk, c'était de toute façon quelque chose de totalement éphémère, comme ça a été longtemps souligné. Et tout est parti, et si on faisait une radio ? On n'avait aucune compétence professionnelle, on était comme ça, c'était
aucune
une pulsion.
Compétence technique.
Ni technique. Et voilà, et ça a commencé pendant l'été 81, où une vingtaine d'amis, de gens se sont réunis au bar Les Deux Ânes, rue de la Colombette, dans le centre de Toulouse. On venait de parcours différents, on est encore pas mal à présent dans la radio et encore sur le terrain. Il y avait des passionnés de musique qui étaient intéressés par l'organisation de concerts, la promotion des groupes. Il y avait des cinéphiles, des plasticiens et des artistes, ça tu vas en parler, Philippe, des intellectuels. Et voilà, c'était une aventure. Et si on faisait de la radio, do it yourself, bien évidemment, parce que tout a commencé avec des bouts de ficelle, Philippe.
Oui, en fait, il faut quand même se dire que pour nous, donc on est issus, c'est peut-être ce que disait Luc, c'est la deuxième génération à peu près, bien qu'on était dans la première génération au départ, tout est issu de ce qu'a impulsé ce mouvement punk. Pour moi, c'est le plus important de ce mouvement, c'est parce que personnellement, effectivement, je pense qu'il est mort à la sortie du premier album de Suzy's and the Benchies en 79. Basta, après c'est fini. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul groupe punk, ça s'appelle les Buzzcocks. Le deuxième peut être les Damned, et puis c'est tout.
Les querelles sont là.
Donc voilà. En gros, voilà, c'est à peu près les querelles qu'on pouvait avoir à l'époque, quand même, et qui n'ont pas changé. Mais c'est l'énergie et surtout l'idée que ça a impulsé cette nouvelle façon de penser et d'acter, qui est le do-it-yourself. DIY en fait, et qui continue et qui perdure actuellement et qui perdure pratiquement dans tous les domaines de la création artistique, y compris après il y a eu peut-être qu'on en parlera que vous en parlerez dans vos travaux, mais tout le cyberpunk, tout ce qui est arrivé derrière grâce aux technologies. En fait, c'est assez intéressant parce que moi, en tant que plasticien, je travaille beaucoup sur la mémoire. Et en gros, les neurosciences nous apprennent que chaque fois qu'un morceau de mémoire sort, un souvenir sort de notre hippocampe pour aller sur le cerveau vers le cortex préfrontal, on transforme cette mémoire et on la transforme et on la re-emmagasine transformée. Ça veut dire qu'en fait, est-ce que ce qu'on va raconter dans ces journées est la réalité ou non ? Pour paraphraser des amis plasticiens, donc dans une pièce dans le FRAC Midi-Pyrénées, donc c'est le collectif à la plage, hein, la réalité n'existe pas. Je pense que la réalité, elle existe ou elle n'existe pas. Voilà, c'est quelque chose à réfléchir. Et donc, cette réalité de radio éphémère, on la raconte maintenant. Peut-être qu'aussi, il y a autant d'histoires différentes que de participants au début. Mais en attendant, c'est vrai que éphémère, c'est sur l'énergie punk, c'est sur cette énergie du do-it-yourself. C'est aussi la volonté de pouvoir, on aurait eu 20 ans maintenant, on aurait peut-être créé des blogs internet, fait sur internet, des pages Facebook, j'en sais rien. Il s'est avéré que là il y avait une radio qui pouvait se mettre en place. Il y avait à l'intérieur de cette mouvance, de cette famille, hein, moi je suis arrivé un peu après la première émission, je crois que c'est en janvier 82, par le biais justement peut-être de la musique, mais il y avait énormément de gens qui venaient des Beaux-Arts en fait, là-dedans, et en gros... En gros, c'est vraiment une famille, c'est vraiment utiliser ce moyen comme vecteur de promotion, quoi, de notre travail, parce qu'en fait, en gros, la radio était faite essentiellement par des gens qui actionnent, artistes autoproclamés ou artistes ou je ne sais rien, quoi, mais qui actionnent dans plein de domaines, et qui a fini pour ma part, en tout cas, avec jusqu'à créer une galerie, une des premières galeries d'art contemporain à Toulouse, les nouvelles galeries Atomium. On en parlera cet après-midi.
Cet après-midi, voilà.
Peut-être que les gens des abattoirs ne le savent pas, hein, parce qu'on connaissait bien avant. Et voilà, donc voilà.
Dès le départ, l'idée, c'était de se démarquer de ce qui existait déjà, d'avoir un ton impertinent. On était des rebelles. Il y avait une dimension expérimentale, laboratoire, bien sûr. On a choisi l'associatif. Et on l'a maintenu, l'associatif, au fil des ans. Et ça, c'est exemplaire parce que beaucoup de radios ont vendu leur âme et leur fréquence. Et donc, on est parti sur un petit groupe. Et un des fondateurs de la radio, Michel Thoron, qui est disparu aujourd'hui, lui, il baignait dans les Sex Pistols. Il était directement, il était punk de tous les fibres de sa peau. Et il a ouvert un bar, le Regalty Bar. Avenue de Grande-Bretagne, et au-dessus du bar, il y avait un appartement sans électricité, et c'est là qu'on a fait le studio FMR. Et là, il y a eu, on a fait le premier concert des Ablettes aussi au fond du bar. Là, ça a été les premières pulsions de la radio sur un mode alternatif, coopératif. Bon, voilà, le studio. Là, il y avait tout le monde qui passait. Il y avait évidemment pas de grille de programme structurée. C'était antenne libre. Et tous, il y avait vraiment une richesse. Les artistes étaient là. J'ai le souvenir de Philippe Ortala qui était là avec nous dans les studios. Voilà, il y avait de l'amitié qui se jouait, mais aussi de la création, parce qu'il y a eu, on le verra cet après-midi, toute une production graphique et visuelle. Et donc, on était dans ce bar. C'était, voilà, on était des adeptes des Sex Pistols, des Clash, des Cure.
Les Clash plutôt. Hein, c'est plutôt bizarre, c'était les Clash.
Les Clash, ouais. C'était les Clash, oui.
Non, c'est vrai.
Et oui, parce qu'il y avait ce festival de Mont-de-Marsan où Philippe.
Était
allé en mobilette bleue.
Vous voulez que j'en parle ? En fait.
Mais si. Philippe.
Mais alors, c'est pas le 76, c'est le 77.
Tu peux pas éviter de parler cette anecdote, non, même, parce que Luc et Solveig, ils tiennent énormément.
Alors, Luc et Solveig font un tour de France, mais il faut quand même dire qu'en 76, le punk et toute l'esthétique n'étaient pas du tout connus. Il faut dire qu'à l'époque, moi, j'avais donc. En 77, j'avais 15 ans, donc je venais d'avoir une mobilette. Et j'avais les cheveux longs, des pattes d'eff et des pulls acryliques, hein, donc. Et de toutes les couleurs, donc c'était quand même assez catastrophique. Et donc, du coup, on entend parler d'un festival. Donc, j'étais à Toulouse, donc lycéen. On entend parler avec des copains d'un festival de rock à Mont-de-Marsan. On commence à avoir quelques prémices de vouloir aimer un peu le rock'n'roll, mais on écoutait quand même plutôt les Roubettes. Pour être soyons très clair. Et donc, dans les Roubettes, hein, en fait, hein, oui. Ou David Essex. Sur le truc. Voilà. Voilà, du vocoder, tout ça. Bon, bref, et donc on entend parler de ça. Et donc, en gros, on vient de m'offrir une mobylette. Mon grand-oncle s'était débarrassé de sa vieille mobylette bleue sans amortisseur à l'arrière. Et donc, on décide à 5 de partir à l'aventure vers Mont-de-Marsan. Donc, l'Easy Rider du Sud-Ouest, en 2 jours, nous sommes arrivés à Mont-de-Marsan. Nous sommes arrivés dans un truc où on a vu des gens assez hallucinants. Enfin, on a mis 2 jours, donc on a serré un des potes avec sa gitane Testi, a serré parce qu'il l'avait bridé. Enfin, il l'avait débridé. Enfin. Bon, bref, on est arrivé à 3 mobilettes là-bas, sur les 5. Et on a fini par découvrir une scène assez bigarrée, si j'ose dire. Et nous, on était petits enfants de province, en cheveux longs. Et on a vu, y avait quand même des punks londoniens. Il y avait sur les tréteaux, il y avait par exemple, alors je sais pas s'il y avait des gens du Brownlee Contingent, mais en fait, en tout cas, il y avait des gens habillés dans tous les sens. Ce qui fait qu'en gros, on a vu rien des concerts pratiquement. Et on était fascinés par tout ce qui se passait sur les gradins de cette arène. Voilà. Voilà. Et donc, si le seul concert dont je me souviens vraiment et qui m'avait vraiment plu, c'est Police, donc vous imaginez. Ceci dit, il n'y avait pas Dovani qui jouait dedans. Voilà. Et donc, voilà, ça a permis de voir les clashs. Et donc, après, on n'est pas reparti parce que les mobilettes ne marchaient plus. Voilà.
Voilà, alors
mais après, on s'est taillé les cheveux et on a monté un groupe punk qui s'est appelé les Syphilitiques juste après ça. Voilà, c'est tout.
Et donc après la radio, l'équipement du studio était minime, hein, c'était une platine, chacun amenait un peu ce qui marchait plus chez lui et s'abidouillait énormément. Donc c'était, voilà, il y avait ce côté artisanal et un peu, on n'avait pas d'argent, hein, c'est les fondateurs, on avait versé une somme de départ. Voilà, on n'était pas déclaré comme radio et tout. Bon, ensuite, on a eu un studio, Place des Piclos, dans une cave toulousaine.
Avant, on avait foutu le feu avec l'émetteur sous les combles.
Oui, voilà, peut-être. Oui.
Deux fois, c'est arrivé aussi au Piclos, il me semble.
Voilà, c'est ça. Et donc, dans cette cave des Piclos, qui était, il y avait un petit couloir, il y avait la mercerie Le Roi du Bouton, qui est une mercerie historique à Toulouse. Et nous, on était là au fond. Alors, bon, et on nous repérait déjà parce que l'entrée, le couloir pour aller au studio était déjà tagué, graffé. Il y avait déjà toute cette mouvance-là qui se développait et qui s'exprimait dans la radio. On a fait un grand concert gratuit historique avec Orchestre Rouge, Classé X, Procédé Fulbert, tout ça sur le parking du Géant Casino. Gratuit, hein, là, ça, je veux dire, c'était... On n'avait pas peur, hein, on faisait tout nous-mêmes avec très peu de moyens. Il a fallu du temps après pour qu'on soit subventionné, financé par un fonds de soutien aux radios locales, associatives, non commerciales. Parce que ça, on l'est resté. Et on a aussi toujours gardé un ton éphémérien. C'est-à-dire quand on se baladait sur la bande FM, on n'avait pas de mal à trouver la fréquence qui après est devenue le 89,1 MHz. Voilà, une fréquence révolutionnaire, bien sûr, et qui a donné lieu à des slogans. On avait des slogans éphémères anti-Blair, éphémères fréquence révolutionnaire, la radio qui tranche, la radio qui sent la mer, la radio qui manque pas d'air, la radio qui dure, puisque bon, éphémère, c'était censé ne pas durer. La poubelle des radios, on a eu aussi. Celle qui vous met les doigts dans le nez. Aujourd'hui, il y a un flyer qui existe, et c'est Finger in the Noise, justement. Bon, il y a tout ce vocabulaire, tout cet état d'esprit. Et le diaporama que vous voyez mixe les images du passé et celles d'aujourd'hui. Il y en a une qui est passée, qui était en lien avec le Royal de Luxe, parce qu'on avait organisé une fête des morts sur la péniche de la Rigole, qui était un peu la base du futur Royal de Luxe. Donc il y avait aussi des liens avec le théâtre, la musique, oui, mais le théâtre aussi. On a été producteur de compilation, hein, puisqu'on n'avait même pas peur, avec des groupes comme... il y a eu 2 compilations... la 1 et la 2, bon, voilà, avec Les Inconnus, Les Fils de Joie, Perspective Neski et Major Kyo. Ça, c'était
pas très punk.
C'était pas très punk, ça. Mais il y avait dans le livret, il y avait un livret extraordinaire quand même, où tous les artistes ont participé. notamment Philippe Hortala et d'autres. Et puis la seconde compile procédait d'Avoil 7.
Voilà. Là, c'était un peu plus punk.
C'était un peu plus punk. Et puis des petites cassettes qu'on appelait ultraviolette, la violette de Toulouse, qui étaient proposées dans un sachet graffité avec.
Il y avait une pochette avec plein de boulot graphique.
Il y avait Pink Pricks, les Kidnappers. Enfin voilà, c'était des groupes locaux, ça.
Ouais, un peu moins récente, un peu plus récente, je veux dire. Donc oui, là, en termes de production, de toute façon, il y avait une production derrière. Ça a un peu repris, ça n'a pas perduré. Mais en tout cas, ça a perduré tout au long des années 80. Et donc, effectivement, pour rester dans le thème, c'était l'énergie du départ. Donc, c'était énergie punk. Mais punk, qui est une énergie qui nous vient d'avant. On pourra dire que le mouvement punk est un mouvement dada, pratiquement. Donc c'est un mouvement qui assume le refus de ce qui se passe avant et qui veut redécouvrir de lui-même ses propres règles. Hein, et puis un mouvement situé, en fait.
Et oui, on évoquera les résonances politiques du mouvement.
Et Éphémère était vraiment au départ dans cette mouvance très situationniste, pour beaucoup. Des fois pas pensé, mais voilà.
Et dans toute cette histoire de Radio Éphémère, bien sûr, on a été une tribu d'animateurs, mais pas seulement, puisqu'il y avait aussi d'autres lieux qui étaient de connivence avec nous. La salle du bikini, Hervé est là, il nous en parlera plus longuement.
On l'a pourri sa salle plus d'une fois.
Des disquaires aussi, bon, l'Armadillo avec Tatane, qui faisait des émissions à Radio Éphémère aussi. Bon, le lien, il est assez naturel, on n'a pas calculé les choses. On a organisé des défilés de mode au bikini, on a organisé des expos toilettes d'artistes où dans chaque bar de Toulouse, il y avait des expos et dans le bar éphémère, il y avait une exposition aussi. On a participé à des événements nationaux comme Coup de talent dans l'Hexagone. Enfin voilà, il y a tout ça qui est un peu émergé là-dedans. Et puis à un moment donné, on a eu une salle, nous aussi. Ça a été une crise de croissance, on va dire, puisque c'était le studio à Estèbes, la salle Frédéric Estèbes, où on avait une salle de spectacle, un bar et le studio. Là, on a amplifié l'organisation de concerts et un resto. Hervé, à un moment donné, est venu nous prêter main forte aussi, puisqu'il y avait des travaux au bikini.
Heureusement, peut-être.
On a eu des moments un peu tendus, notamment quand les skins ont trouvé que ce bar, il était sympa. Et je me rappelle d'une soirée où il y avait une bande de skins qui était attablée au bar. Et il y avait un concert reggae en suivant et on s'est demandé comment ça allait pouvoir se passer. Et on n'avait pas très envie de faire le service d'ordre pour les skins. Enfin, on s'est trouvé dans des situations, on était ouvert, c'était libre, on pouvait venir. Et du coup, on a eu aussi des choses comme ça à gérer. Le studio, ça nous a un peu débordé à un moment donné et on est allé se réfugier et se dynamiser au sous-sol du bikini. Ça a été le studio éphémère au bikini, où là, il y a eu une grosse effervescence parce qu'il y avait un lien direct entre les concerts dans la salle et la radio et l'antenne. Tout ça se fonctionnait très bien jusqu'à l'explosion d'AZF qui a mis un terme à ce voisinage et qui nous a ramenés en ville dans des studios boulevard des Minimes. Où là, une nouvelle génération d'animateurs éprouve le laboratoire de la radio. Actuellement, il y a une exposition d'ailleurs sur un petit peu tous les 35 ans de notre histoire. Que dire de plus ? Il y a eu aussi autour de toutes les nouvelles technologies, des créations de radios d'ondes miroirs. Enfin, voilà, on a toujours été quand même à l'affût de ce qui pouvait être nouveau, des outils. Ça, c'est Philippe, tu as bien suivi tout ça.
Pas trop, non.
Comment ça ?
Je suis très mauvais en technologie, donc ça me sert juste de mémoire. Non, c'est vrai, oui, on a rapidement investi l'univers cyberpunk. Voilà, donc ça a été la technologie, détourner la technologie de diffusion a toujours été un des axes de la radio.
Et puis il y a eu aussi tout un réseau de radios qui s'est créé avec les radios en région. Il y avait, je crois, 40 radios dans la région Midi-Pyrénées, des radios nationales, internationales, l'Espagne, le Portugal, et on verra que ça a créé des connivences aussi pour organiser des concerts. Bon, bref, le moment où il y a eu, avec l'arrivée du numérique, On s'est soudain libéré de cette fréquence locale qu'on revendiquait aussi, hein, mais qui nous contraignait un peu pour avoir un écho dans le monde entier. Et là, ça a créé d'autres réseaux. Et c'est vrai que c'est une autre dimension pour la radio.
Oui, voilà, on a fait le tour.
Je ne sais pas s'il y a des questions, voilà. Vite
et,
fait.
Et en fait, en gros, ça a essaimé aussi un peu partout. Il faut quand même rappeler qu'on avait beaucoup de rapports aussi avec... au début, parce qu'on est à Toulouse, hein, avec l'Espagne et Barcelone essentiellement. Donc on avait pas mal de liens vers là-bas. Et ça a permis aussi de faire remonter pas mal de mouvements via Barcelone, qui était très connecté avec New York. Donc aussi, ça a permis de faire remonter beaucoup de mouvements. Quand on parlait tout à l'heure de l'explosion punk... on a un peu l'impression que ça ne se passe qu'en 76 à Londres, en fait, ou en Europe. Ça se passe un peu partout et ça se passe peut-être un peu avant à New York aussi. Et donc, c'est vrai que tout ça, on les a, par des effets boomerang, on les a bien vu arriver à la radio. Donc, par rapport à cette connexion, voilà, qu'on avait avec Barcelone.
Et en janvier, on édite une compilation, les 35 ans de Radio Éphémère, avec 35 groupes qui ont accepté de participer.
Alors ça c'est au festival, vous voyez, on était aussi vendus, hein, c'est au premier festival d'art contemporain de Nice, hein, le festival Art Jonction en 86, où avec Bernard
qui est là, Ahmad, voilà,
et moi-même, nous avions fait, donc des individus qui sont devant, nous avions fait une exposition, nous avions fait une installation de pièces sous l'eau, en fait. Nous présentions des pièces dans une piscine. Et ça s'appelait Mouillez-vous pour l'art. Que nous avons présenté dans la piscine du Bikini la même année, où nous obligions les gens à aller se mouiller pour aller voir ce qui se passait sous l'eau. Avec un peu de tout, hein. C'était du multimédia avant l'heure, du son sous l'eau, tout un tas de choses qui étaient.
Et on a une spécificité, on a eu un président pendant 33 ans, Philippe Frézière. Voilà. C'est pas les mandats, il y a eu renouvellement de mandats.
Parce qu'on s'en foutait, parce que le président, en fait, on se disait on s'en fout d'un président,
et
on
veut que ça fonctionne. Voilà. Et il y a environ 150 à 200 animateurs et 68 émissions. Et ça existe nulle part ailleurs.
Et alors, en fait, je pense que non, c'était juste pour terminer. Je crois qu'il y a dû passer, j'ose à peine imaginer le nombre de gens qui sont passés à la radio, mais depuis, si on est à 5000 personnes, ça doit pas être loin, quoi, en fait.
Qui l'ont écouté.
Voilà. Donc, qui sont passés, qui ont acté, qui ont fait des choses dans la radio, quoi, en fait. Donc, voilà. Et puis, je tenais à préciser que l'énergie punk reste un peu dans les tuyaux, quoi, en fait. Donc, Monique disait qu'actuellement, il y a une exposition à la radio, des 35 ans de la radio. Donc en fait, c'est des documents autour des 35 ans de la radio. Donc on verra que là-dedans, il y a cette énergie qui transparaît. Et juste à côté, jusqu'à mercredi, c'est pour les gens qui connaissent, à l'atelier TA IPN, enfin, côté atelier TA, il y a une exposition qui s'appelle Punk, où on présente un peu on met en perspective trois générations d'artistes autour du sujet. Donc il y a du Bombage, du Kinou, mais il y a aussi du Manuel Pomard ou du Alex à quatre putes vie. Donc vous pouvez aller voir cette exposition jusqu'à mercredi. Voilà, c'est juste derrière la radio.
Merci beaucoup.